Césarine Dietrich, neuvième partie. Monsieur Dietrich rentrait. Elle l'informa en peu de mots et continua d'exhaler sa colère et son chagrin en menaces et en plaintes, adjurant son père de la protéger et d'agir au plus vite pour faire rompre son mariage. Elle voulait le faire déclarer nul. La séparation ne lui suffisait pas. Monsieur Dietrich, accablé d'abord, se releva bientôt lorsqu'il vit sa fille hors d'elle-même. S'il la chérissait avec tendresse, il n'en était pas moins, avant tout, homme de bien, admirablement lucide dans les grandes crises. « Vous parlez mal, ma fille, lui dit-il, et vous ne pensez pas ce que vous dites. De ce que Jacques a des nuits agitées et des heures d'égarement, il ne résulte pas qu'il soit fou. Puisqu'un pauvre vieux homme comme Dubois suffit à le contenir et vient à bout de cacher son état. Nous aurons demain plus de détails. Mais pour aujourd'hui, ce que nous savons ne suffit pas pour provoquer la cruelle mesure d'une séparation légale. Songez qu'il nous faudrait porter un coup mortel à la dignité de celui dont vous avez accepté le nom. Il faudrait accuser lui et les siens de supercherie. Et qui vous dit qu'un tribunal se prononcerait contre lui? En tout cas, l'opinion vous condamnerait, car personne n'est dispensé de remplir un devoir, quelque pénible qu'il soit. Le vôtre est d'attendre patiemment que la situation de votre mari s'éclaircisse et de faire tout ce qui, sans compromettre votre fierté ni votre indépendance, pourra le calmer et le guérir. Si, après avoir épuisé les moyens de douceur et de persuasion, nous sommes forcés de constater que le mal s'aggrave et ne laisse aucun espoir, il sera temps de songer à prendre des mesures plus énergiques. Sinon, vous serez cruellement et justement blâmé de lui avoir refusé vos soins et vos consolations. » Césarine, atterrée, ne répondit rien et passa la nuit dans un désespoir dont la violence m'effraya. Je n'osais la quitter avant le jour. Je craignais qu'elle ne se portât à quelque acte de désespoir. Cette fois, elle ne posait pas pour attendrir les autres. Elle se retenait au contraire, et n'eut point d'attaque de nerfs. Mais son chagrin était profond. Les larmes l'étouffaient, elle jugeait son avenir perdu, sa vie sacrifiée à quelque chose de plus sombre que le veuvage, l'obligation incessante d'employer son intelligence supérieure à contenir les emportements farouches ou à subir les puériles préoccupations d'un idiot méchant à ses heures, toujours jaloux et osant se dire épris d'elle. Le châtiment était cruel, en effet, mais c'est en vain qu'elle me le présentait comme une injustice du sort. Elle avait épousé ce moribond, moitié par ostentation de générosité, moitié pour se relever aux yeux de Paul, un peu aussi pour être marquise et indépendante par-dessus le marché. Le lendemain, M. Dietrich alla, dès le matin, voir son gendre. Il le trouva endormi et put causer longuement avec Dubois et le médecin qui avait passé la nuit à observer son malade. Le résumé de cet examen fut que le marquis n'était ni fou, ni lucide absolument. Il avait les organes du cerveau tour à tour surexcités et affaiblis par la surexcitation. Quelques heures de sa journée, entre le repos du matin, qui était complet, et le retour de l'accès du soir, pouvaient offrir une parfaite sanité d'esprit, et nulle consultation médicale dressée avec loyauté n'eût pu faire prononcer qu'il était incapable de gérer ses affaires ou de manquer d'égard à qui que ce soit. Il avait causé avec lui après l'accès et l'avait trouvé bien portant de corps et d'esprit. Il ne jugeait point qu'il eût jamais eu le cerveau faible. Il le croyait en proie à une maladie nerveuse, résultat de sa blessure ou de la grande passion sans espoir qu'il avait eue et qu'il avait encore pour sa femme. Là se présentait une alternative sans issue. En cédant à son amour, Césarine le guérirait-elle? S'il en était ainsi, N'était-il pas à craindre que les enfants résultant de cette union ne fussent prédisposés à quelques troubles essentiels dans l'organisation ? Le médecin ne pouvait et ne voulait pas se prononcer. Monsieur Dietrich sentait que sa fille se tuerait plutôt que d'appartenir à un homme qui lui faisait peur et dont elle eût rougi de subir la domination. Il se retira sans rien conclure. Il n'y avait qu'à patienter et attendre, essayer un rapprochement purement moral, en observer les effets, séparer les deux époux si le résultat des entrevues était fâcheux pour le marquis. Alors, on tenterait de le faire voyager encore. On ne pouvait s'arrêter qu'à des atermoiements. Mais en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, M. Dietrich voulait que l'état du marquis fût tenu secret. Et Dubois affirmait que la chose était possible, vu les dispositions locales de son hôtel et la discrétion de ses gens, qui lui étaient tous aveuglément dévoués. 2 heures plus tard, M. de Valbonne, arrivé dans la nuit, venait s'entretenir du même sujet avec M. Dietrich. M. de Valbonne était absolu et cassant. Il n'aimait pas Césarine, pour l'avoir peut-être aimée sans espoir avant son mariage. Il la jugeait coupable de ne pas vouloir se réunir à son ami, et quand M. Dietrich lui rappela le pacte d'honneur par lequel, en cas de guérison, Jacques s'était engagé à ne pas réclamer ses droits, il jura que Jacques était trop loyal pour songer à les réclamer. C'était lui faire injure que de le craindre. « Pourtant, dit M. Dietrich, il a fait hier soir une scène inquiétante, et dans ces moments de crise, il ne se rappelle plus rien. » «
Oui, reprit Valbonne, il est alors sous l'empire de la folie, j'en conviens. Et si sa femme n'eût été la cause volontaire ou inconsciente de cette exaltation en le gardant sous sa dépendance durant 5 ans, elle aurait le droit d'être impitoyable envers lui. Mais elle l'a voulu pour ami et pour serviteur. Elle l'a rendu trop esclave et trop malheureux. Je dirais même qu'elle l'a trop avili pour ne pas lui devoir tous les sacrifices à l'heure qu'il est.
Je ne vous permets pas de blâmer ma fille, monsieur le vicomte. Je sais qu'en épousant votre ami contre son inclination, elle n'a eu en vue que de le relever de l'espèce d'abaissement où tombe dans l'opinion un homme trop soumis et trop dévoué.
Oui, mais les devoirs changent avec les circonstances. Jacques était condamné.
La réparation donnée par mademoiselle Dietrich était suffisante alors, et facile, permettez-moi de vous le dire, elle y gagnait un beau nom. Sachez, monsieur, qu'elle n'était pas lasse de porter le mien. Et rappelez-vous qu'elle n'a pas voulu accepter la fortune de son mari.
Elle l'aura quand même. Elle en jouira, du moins, car elle y a droit, elle est sa femme. Rien ne peut l'empêcher de l'être, et la loi l'y contraint.
Vous parlez de moi ? Dit Césarine, qui entrait chez son père et qui entendit les derniers mots. Je suis bien aise de savoir votre opinion, monsieur de Valbonne, et de vous dire, en guise de salut de bienvenue, que ce ne sera jamais la mienne. » Monsieur de Valbonne s'expliqua, et, la rassurant de son mieux sur la loyauté du marquis, il exprima librement son opinion personnelle sur la situation délicate où l'on se trouvait. « Si Césarine m'a bien rapporté ses paroles, il y mit peu de délicatesse et la blessa cruellement, en lui faisant entendre qu'elle devait abjurer toute autre affection secrète, si pure qu'elle pût être, pour rendre l'espoir, le repos et la raison à l'homme dont elle s'était jouée trop longtemps et trop cruellement. Il s'ensuivit une discussion très amère et très vive que M. Dietrich voulut en vain apaiser. Césarine rappela au vicomte qu'il avait prétendu à lui plaire et qu'elle l'avait refusé. Depuis ce jour, il l'avait haï, disait-elle, et son dévouement pour Jacques de Rivonnière couvrait un atroce sentiment de vengeance. La querelle s'envenimait lorsque Bertrand entra pour demander si l'on avait vu le marquis. Il l'avait introduit dans le grand salon, où le marquis lui avait dit, avec beaucoup de calme, vouloir attendre madame la marquise. Bertrand avait cherché madame chez elle, et ne l'y trouvant pas, il était retourné au salon d'honneur pour dire à monsieur de Rivonnières qu'il allait la chercher dans le corps de logis habité par monsieur Dietrich. Mais le marquis n'était plus là, et les autres domestiques assuraient l'avoir vu aller au jardin. Dans le jardin, Bertrand ne l'avait pas trouvé davantage, non plus que dans les appartements de la marquise. Il était pourtant certain que monsieur de Rivonnières n'avait pas quitté l'hôtel. Monsieur Dietrich et monsieur de Valbonne se mirent à sa recherche. Césarine rentra dans son appartement, où le marquis s'était glissé, inaperçu, et l'attendait. Elle eut un mouvement d'effroi et voulut sonner. Il l'en empêcha, en se plaçant entre elle et la sonnette. « Écoutez-moi, lui dit-il, c'est pour la dernière fois. Je connais trop votre maison pour y errer à l'aventure. Je voulais parler à votre père, j'ai pénétré tout à l'heure dans son cabinet. J'ai entendu votre voix et celle de Valbonne. J'ai écouté. Un homme condamné a le droit de connaître les motifs de sa sentence. » J'ai appris une chose que j'ignorais, c'est que je suis fou, et une chose dont je voulais encore douter, c'est que votre indifférence pour moi s'est échangée en terreur et en aversion. Je suis bien malheureux, Césarine, mais je vous absous, moi, d'avoir fait sciemment mon malheur. Vous n'avez jamais connu l'amour, et ne le connaîtrez jamais. C'est pourquoi vous ne vous êtes pas douté de la violence du mien. Vous n'avez jamais cru qu'on en pût devenir fou. Vous avez toujours raillé mes plaintes et mes transports. C'est assez souffrir. Vous ne me ferez plus de mal. Puissiez-vous oublier celui que vous m'avez fait et n'en avez jamais apprécié l'étendue, car vous auriez trop de remords. Je vous les épargne, ces reproches, car, aliéné ou non, je me sens calme en ce moment, comme si j'étais mort. Adieu. Si j'étais vindicatif, je serais content de penser que votre passion du moment est de réduire un autre homme que vous ne réduirez pas. Il vous préférera toujours sa femme. Je l'ai vu tantôt. Je sais ce qu'il pense et ce qu'il vaut. Vous souffrirez dans votre orgueil, car il est plus fort de sa vertu que vous de votre ambition. Mais je ne suis pas inquiet de votre avenir. Vous chercherez d'autres victimes et vous en trouverez. D'ailleurs, ceux qui n'aiment pas résistent à toutes les déceptions. Soyez donc heureuse à votre manière. Moi, je vais oublier la funeste passion qui a troublé ma raison et avili mon existence. » J'étais entrée chez Césarine dès les premiers mots du marquis. Il se dirigea vers moi, prit ma main qu'il porta à ses lèvres sans me rien dire et sortit sans se retourner. Inquiète, je voulais le suivre. « Laissons-le partir, » dit Césarine en faisant signe à Bertrand, qui se tenait dans l'antichambre et qui suivit le marquis. « Il se rend justice à lui-même. Ses reproches sont injustes et cruels, mais je n'y veux pas répondre. À la moindre excuse, à la moindre consolation que je lui donnerai, il me reparlerait de ses droits et de ses espérances. Laissons-le rompre tout seul ce lien odieux. » Bertrand revint nous dire que monsieur de Rivonnières était remonté dans sa voiture et avait donné l'ordre de retourner chez lui. « Dubois l'a-t-il accompagné ici ?»« Non, madame la marquise. Dubois veille monsieur le marquis toutes les nuits, il dort le jour. Mais monsieur de Valbonne, qui n'avait pas encore quitté l'hôtel, est monté en voiture avec monsieur de Rivonnières. » « N'importe, Bertrand, allez savoir ce qui se passe à l'hôtel Rivonnières. Vous viendrez me le dire. » Bertrand obéit en annonçant mon neveu. « Venez !» s'écria Césarine en courant à lui. « Donnez-moi conseil. Jugez-moi, aidez-moi. J'ai la tête perdue. Soyez mon ami et mon guide. » « Je sais tout, » répondit Paul. « Je viens de voir monsieur Dietrich. Il ne songe qu'à vous préserver. Vous ne songez pas non plus à autre chose. » Le conseil que vous donnerez ma conscience, vous ne le suivriez pas. « Je le suivrai !» répondit Césarine avec exaltation. « Eh bien, demandez votre voiture et courez chez votre mari.
car je l'ai vu sortir d'ici d'un air si abattu que je crains tout. Il m'a serré la main en passant, et son regard semblait m'adresser un éternel adieu.
« J'y cours !»
dit Césarine en tirant la sonnette. « Mais ce n'est pas tout d'aller lui donner quelques vagues consolations, » reprit Paul. « Il faut rester près de lui. Il faut le veiller dans son délire. Il faut le distraire et le rassurer à ses heures de calme. S'il veut quitter Paris, il faut le suivre. Il faut être sa femme, en un mot, dans le sens chrétien et humain, le plus logique et le plus dévoué.
« Ah ! Voilà ce que vous conseillez !»
s'écria Césarine en portant convulsivement un verre d'eau froide à ses lèvres desséchées et frémissantes.
« C'est vous qui me dites d'être la femme de monsieur de Rivonnière ?»«
Et pourquoi, reprit-il, ne serait-ce pas moi ? Je suis le plus nouveau et le plus désintéressé de vos amis. Vous me consultez ? Je ne me serais pas permis sans cela de vous dire ce que je pense. »
« Ce que vous pensez est odieux. Une femme ne doit pas se respecter, elle doit se donner sans amour comme une esclave vendue ?»«
Non, jamais. Mais si elle est noblement femme, si elle a du cœur, si elle plaint le malheur qu'elle a volontairement causé, elle fait entrer l'amour dans la pitié. Qu'est-ce donc que l'amour, sinon la charité à sa plus haute puissance ?»«
Ah oui, vous pensez cela, vous ?» Vous voulez que j'aime mon mari par charité, comme vous aimez votre femme ?
Je n'ai pas dit par charité, j'ai dit avec charité. J'ai invoqué ce qu'il y a de plus pur et de plus grand, ce qui sanctifie l'amour et fait du mariage une chose sacrée.
C'est bien,
dit Césarine tout à coup froide et calme. Vous avez prononcé, j'obéis. Elle sortit sans me permettre de la suivre.
« Oui, c'est bien, Paul, » dis-je à mon neveu en l'embrassant. « Toi seul as eu le courage de lui tracer son devoir. »
Mais il repoussa doucement mes caresses, et tombant sur un fauteuil, il éclata d'un rire nerveux entrecoupé de sanglots étouffés.
« Qu'est-ce donc ? » m'écriai-je. « Qu'as-tu ? Es-tu malade ? Es-tu fou ?»
« Non, non, » répondit-il avec un violent effort sur lui-même pour se calmer.
« Ce n'est rien. Je souffre, mais ce n'est rien. »
« Mais enfin, cette souffrance, malheureux enfant, tu l'aimes donc ?»« Non, ma tante, je ne l'aime pas dans le sens que vous attachez à ce mot-là. Elle n'est pas mon idéal, le but de ma vie. Si elle le croit, détrompez-la. Elle n'est même pas mon amie, ma sœur. » Mon enfant, comme Marguerite, elle n'est rien pour moi qu'une émouvante beauté dont mes sens sont follement et grossièrement épris. Si elle veut le savoir, dis-le-lui pour la désillusionner. Mais non, ne lui dites rien, car elle se croirait vengée de ma résistance, et elle est femme à se réjouir de mon tourment. Cela n'est pourtant pas si grave qu'elle le croirait. Les femmes s'exagèrent toujours les supplices qu'elles se plaisent à nous infliger. Je ne suis pas monsieur de Rivonnière, moi. Je ne deviendrai pas fou. Je ne mourrai pas de chagrin. Je ne souffrirai même pas longtemps. Je suis un homme, et jamais une convoitise de l'esprit ni de la chair, comme disent les catholiques, n'a envahi ma raison, ma conscience et ma volonté. Le conseil que je viens de donner m'a coûté, je l'avoue. Il m'a passé devant les yeux des lueurs étranges. Mon sang a bourdonné dans mes oreilles. J'ai cru que j'allais tomber foudroyée. Puis j'ai résisté. Je me suis raillée moi-même. Et cela s'est dissipé, comme toutes les vaines fumées qu'un cerveau de 25 ans peut fort bien exhaler sans danger d'éclater. Ne me dites rien, ma tante. Je ne suis pas un héros, encore moins un martyr. Je suis homme. Et rien de ce qui est humain ne m'est étranger, comme porte la consigne du sage. Aussi, la prudence, le point d'honneur, le respect de moi-même, me sont-ils aussi familiers que les émotions de la jeunesse. Je donne la préférence à ce qui est bien sur ce qui me serait agréable. Le devoir avant le plaisir, toujours. Et grâce à ce système, tout devoir me devient doux.
À présent, parlons de Marguerite, ma bonne tante. Cela me touche, me pénètre et m'intéresse beaucoup plus. Elle n'est pas bien et m'inquiète chaque jour davantage. On dirait qu'elle me cache encore quelque chose qui la fait souffrir et que je cherche en vain à deviner. Venez la voir un de ces jours. Je vous laisserai ensemble et vous tâcherez de la confesser. Je m'en retourne auprès d'elle. Puis-je boire le verre d'eau qui est là? Cela achèvera de me remettre. » Il prit le verre, puis se souvenant que Césarine agitait et avait trempé ses lèvres, il le reposa et en prit un autre sur le plateau, en disant avec un sourire demi-amer, demi-enjoué, « Je n'ai pas besoin de savoir sa pensée, je la sais, de reste. » « Tu crois la connaître ?»« Je l'ai connue, puis je m'y suis trompée. Après l'avoir trop accusée, je l'ai trop justifiée. Mais tout à l'heure, quand elle m'a dit « C'est vous qui me conseillez d'être la femme d'un autre ?» J'ai compris son illusion, son travail, son but. Déjà je les avais pressentis hier, dans son attitude vis-à-vis de Marguerite, dans son sourire amer, dans ses paroles blessantes. Elle n'est pas si forte qu'elle le croit. Elle ne l'est du moins pas plus que moi. Et pourtant je ne suis pas un héros, je vous le répète, ma tante. Je suis l'homme de mon temps, que la femme ne gouvernera plus, à moins de devenir loyale et d'aimer pour tout de bon. Encore un peu de progrès, et les coquettes, comme tous les tyrans, n'auront plus pour adorateurs que les hommes corrompus ou efféminés. Il me laissa, rassuré sur son compte, mais inquiète de Césarine. Je n'osais la rejoindre. Je demandai à voir M. Dietrich, il était sorti avec elle. Bertrand vint au bout d'une heure me dire, de la part de la marquise, que M. de Rivonnière était calme et qu'elle me priait de venir passer la soirée chez lui à 8 heures. Je fus exact. Je trouvai le marquis mélancolique, attendri, reconnaissant. Césarine me dit devant lui, dès que j'entrai, « Nous ne t'avons pas invité à dîner, parce qu'ici, rien n'est en ordre. » Le marquis nous a fait très mal dîner, ce n'est pas sa faute. Demain, je m'occuperai de son ménage avec Dubois, et ce sera mieux. En revanche, nous avons fait une charmante promenade au bois, par un temps délicieux. Tout Paris y était. Elle était si tranquille, si dégagée, que j'eus peine à cacher ma surprise. « Prends ton ouvrage, si tu veux, » ajouta-t-elle. « Tu n'aimes pas à rester sans rien faire. » Mon père était en train de nous raconter la séance de la chambre. Monsieur Dietrich continua de parler politique au marquis, voulant peut-être s'assurer de la lucidité de son esprit, mais procédant avec lui comme s'il n'en eût jamais douté. Je vis que c'était une cure consciencieusement entreprise. Le marquis écoutait avec une sorte d'effort, mais répondait à propos. De temps en temps, il paraissait éprouver quelque anxiété en regardant la pendule. Le malheureux, depuis qu'il se savait réputé fou, semblait avoir conscience de son mal et en redoutait l'approche. Il s'observa sans doute beaucoup, car il triompha de l'heure fatale et arriva jusqu'à près de 10 heures sans perdre sa présence d'esprit et sans paraître souffrir. Alors, il tomba dans une sorte d'abattement méditatif, répondit de moins en moins aux paroles qu'on lui adressait et finit par ne plus répondre du tout. « Je vois que vous souffrez beaucoup, » lui dit Césarine. « Vous allez vous coucher. Nous resterons au salon jusqu'à ce que vous dormiez. Nous jouerons aux échecs, mon père et moi. Si vous ne dormez pas, vous viendrez nous trouver. » Il répondit par un vague sourire, sans qu'on sût s'il avait bien compris. Dubois l'emmena. Monsieur Dietrich se glissa dans une pièce voisine de la chambre à coucher de son gendre. Il voulait écouter et observer les phénomènes de l'accès. Dubois laissa les portes ouvertes sous la tenture rabattue. Césarine, restée au salon avec moi, allait et venait sans bruit. Bientôt elle m'appela pour écouter aussi. Le marquis souffrait beaucoup et se plaignait à Dubois comme un enfant.
Le brave homme le réconfortait, lui répétant sans se lasser « Ça passera, monsieur, ça va passer !» La souffrance augmenta. Le malade demanda ses pistolets. Et ce fut une exaspération d'une heure environ, durant laquelle il accabla Dubois d'injures et de reproches de ce qu'il voulait lui conserver la vie. Mais il n'avait pas l'énergie nécessaire pour faire acte de rébellion. La souffrance paralysait sa volonté. Tout à coup, elle cessa, comme par enchantement. Il se mit à déraisonner. Il parlait assez bas. Nous ne pûmes rien suivre et rien comprendre, sinon qu'il passait d'un sujet à un autre et que ses préoccupations étaient puériles. Nous entendions mieux les réponses de Dubois, qui le contredisait obstinément. À ce moment-là, il ne craignait plus de l'irriter. « Vous savez bien, lui disait-il, qu'il n'y a pas un mot de vrai dans ce que vous me dites. Vous êtes à Paris, et non à Genève. L'horloger n'a pas dérangé votre montre pour vous jouer un mauvais tour. Votre montre va bien. Aucun horloger n'y a touché. » Nous entendîmes le marquis lui dire « Ah, voilà, tu me crois fou, c'est ton idée ?»« Non, monsieur, répondit le patient vieillard. « Je vous ai connu tout petit. Je vous ai, pour ainsi dire, élevé. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas fou. Vous ne l'avez jamais été. Mais vous étiez fort railleur, et vous l'êtes encore. Vous me faisiez un tas de comptes pour vous moquer de moi. Et c'est une habitude que vous avez gardée. Moi, je me suis habitué à vous écouter, et à ne rien croire de ce que vous me dites. » Le marquis parla encore bas. Puis, distinctement et raisonnablement, « Mon ami, dit-il, je sens que ma tête va tout à fait bien et que je vais dormir. Mais il faut que tu me rappelles ce que j'ai fait hier. Je ne m'en souviens plus du tout. Et moi, je ne veux pas vous le dire, parce que vous ne dormiriez pas. Quand on veut bien dormir, il faut ne se souvenir de rien et ne penser à rien. Allons, couchez-vous. Demain matin, vous vous souviendrez. » « C'est comme tu voudras. Pourtant, j'ai quelque chose qui me tourmente. Est-ce que j'ai été méchant tantôt ?»« Vous ? Jamais. »« Je ne t'ai pas brutalisé pendant que je souffrais. »« Cela ne vous est jamais arrivé, que je sache. »« Tu mens, Dubois. Je t'ai peut-être frappé. »« Et quelle idée avez-vous là ? Et pourquoi me dites-vous cela aujourd'hui ?»« Parce qu'il me semble que je me souviens un peu. » À moins que ce ne soit encore un rêve. Rêve ou non, embrasse-moi, mon pauvre Dubois, et va te coucher. Je suis très bien. » Un quart d'heure après, nous entendîmes sa respiration égale et forte. Il dormait profondément. Dubois vint nous trouver. « Monsieur le marquis est sauvé, nous dit-il. Il n'a pas encore conscience du bien que vous lui avez fait, mais il l'éprouve. Son accès a été plus court et plus doux de moitié que les autres jours. Continuez, et vous verrez qu'il ira de mieux en mieux. C'est le chagrin qui l'a brisé. Le bonheur le guérira, je n'en doute plus. » Monsieur Dietrich lui demanda si c'était la première fois que le marquis avait une vague conscience de ses emportements. « Oui, monsieur, c'est la première fois. Vous voyez que son bon cœur se réveille. » Et comme il m'a embrassé, le pauvre enfant. C'est comme quand il était petit. » Il était 4 heures du matin. Dubois avait fait préparer pour nous l'appartement qu'occupait Madame de Monterme lorsqu'elle venait soigner son frère. Elle ignorait son retour et passait l'été à Rouen, où son mari avait des intérêts à surveiller. Nous prîmes donc du repos, et nous pûmes assister, en quelque sorte, au réveil du marquis, en nous tenant dans la pièce d'où nous l'avions écouté durant la nuit. Il éveilla Dubois à 9 heures et, se jetant à son cou, « Mon ami, lui dit-il, je me souviens d'hier. J'ai été bien cruellement éprouvé. J'ai appris que j'étais fou et que ma femme avait peur de moi. Mais ensuite elle est venue, au moment où, de sang-froid, j'étais résolu à me faire sauter la cervelle. Elle a été bonne comme un ange. » Son père, excellent. Ils n'ont pas voulu discuter avec moi. Ils m'ont traité comme un enfant. Mais comme un enfant qu'on aime.
Ils m'ont pris, bon gré, mal gré, dans leur voiture, et ils m'ont promené à travers toutes les élégances de Paris pour bien montrer que j'étais guérie, pour faire croire que je n'étais pas aliénée et que ma femme prétendait vivre avec moi. Cela m'a fait du mal et du bien. Je vois qu'elle se préoccupe de ma dignité et qu'elle veut sauver le ridicule de ma situation. Je lui en sais gré. Elle agit noblement, en femme qui veut faire respecter le nom qu'elle porte. Elle me fait encore un plus grand bien. Elle détruit ma jalousie. Car en feignant d'être avec moi, elle rompt avec les espérances qu'elle a pu encourager. Il n'y a qu'un lâche qui accepterait ce partage, même en apparence. Et l'homme que je soupçonnais de l'aimer malgré lui est homme de cœur et très orgueilleux. Tout cela est bon et bien de la part de ma femme et de son père, et aussi de cette excellente Nermont, qui a toujours donné les meilleurs conseils. Monsieur ne sait pas qu'ils ont passé la nuit ici et qu'ils y sont encore.
Que me dis-tu là ?
Malheur à moi, ils m'ont vu dans mon accès. Non, monsieur, mais ils auraient pu vous voir. Vous n'avez pas eu d'accès.
Tu mens, Dubois, j'en ai toutes les nuits. Valbonne l'a avoué.
J'ai bien entendu, je me souviens bien. Ma femme a voulu s'assurer de la vérité. Elle sait à présent que je ne suis plus un homme et qu'elle ne pourra jamais m'aimer.
Césarine entra en l'entendant sangloter. Elle le trouva en robe de chambre, assis devant sa toilette et pleurant avec amertume. Elle l'embrassa et lui dit
« Votre folie, c'est de vous croire fou, vous n'en avez pas d'autre. Nous avons été trompés, vous avez votre raison. Qu'elle se trouble un peu à certaines heures de la nuit, c'est de quoi je ne m'inquiète plus à présent. Je me charge de vous guérir, en restant près de vous pour vous consoler, vous distraire, et vous prouver que je n'ai pas de meilleur et de plus cher ami que vous. »
« Restez donc, » répondit-il en se jetant à ses genoux. « Restez sans crainte et guérissez-moi. Je veux guérir. Il faut que l'homme dont vous vous êtes déclaré la femme, en vous montrant en public avec lui, ne soit pas un insensé ou un idiot. Je vous serai soumis comme un enfant, et ma reconnaissance sera plus forte que ma passion, car je n'oublierai plus mes serments, et ce que j'ai juré, je le tiendrai. Soignez donc votre ami, votre frère, jusqu'à ce qu'il soit digne d'être votre protecteur. »
C'était là que Césarine avait voulu la mener. C'était en somme ce qu'elle pouvait faire de mieux, et elle l'avait fait avec vaillance. Elle s'installa chez son mari et me pria d'y rester avec elle. Monsieur Dietrich retourna chez lui et vint tous les jours dîner avec nous. Bertrand passa les nuits à surveiller toutes choses, toujours prêt à contenir le malade s'il arrivait à la fureur. Bien que Dubois ne fût ni inquiet ni fatigué de sa tâche. En très peu de jours, les accès, toujours très faibles, disparurent presque entièrement, et tout fit présager une guérison complète et prochaine. On fit des visites, on en grandit. Un bruit vague de démence avait couru. Toutes les apparences, et bientôt la réalité, le démentirent. Je voyais Marguerite assez souvent, et je n'étais pas aussi rassurée sur son compte que sur celui du marquis. Elle allait toujours plus mal. Minée par une fièvre lente, elle n'avait presque plus la force de se lever. Paul voyait avec effroi l'impuissance absolue des remèdes. Après une consultation de médecin qui, par sa réserve, aggrava nos inquiétudes, Marguerite vit malgré nous qu'elle était presque condamnée. « Écoutez, » me dit-elle un jour que nous étions seuls ensemble, « je meurs, je le sais et je le sens. Il est temps que je parle pendant que je peux encore parler. Je meurs parce que je dois, parce que je veux mourir. J'ai commis une très mauvaise action. Je vous la confie comme à Dieu. Réparez-la si vous le jugez à propos. » J'ai surpris une lettre qui était pour Paul. Je l'ai ouverte, je l'ai lue. Je la lui ai cachée, il ne la connaît pas. Seulement, laissez-moi vous dire qu'en faisant cette bassesse, j'avais déjà pris la résolution de me laisser mourir, parce que j'avais tout deviné.
À présent, lisez. » Elle me remit un papier froissé, humide de sa fièvre et de ses larmes, qu'elle portait sur elle comme un poison volontairement savouré. C'était l'écriture de Césarine, et elle datait d'une quinzaine. « Paul, vous l'avez voulu, je suis chez lui. Je le sauverai. Il est déjà sauvé. Je suis perdu, moi, car dès qu'il sera guéri, je n'aurai plus de motif pour le quitter et pour réclamer ma liberté. Il faudra que je sois sa femme, entendez-vous? Son amour est invincible. C'est sa vie. Et s'il perd encore une fois l'espérance, il se tuera. Vous l'avez voulu, je serai sa femme. Mais sachez qu'auparavant, je veux être à vous. Vous m'aimez, je le sais. Nous devons nous quitter pour jamais, nos devoirs nous le prescrivent, et nous ne serons point lâches. Mais nous nous dirons adieu, et nous aurons vécu un jour qui résumera pour nous toute une vie. Je vous ferai connaître ce jour de suprême adieu. Je trouverai un prétexte pour m'absenter, un prétexte qui vous servira aussi. Ne me répondez pas, et soyez calme en apparence. » Je relus trois fois ce billet. Je croyais être halluciné. Je voulais douter qu'il fût de la main de Césarine. Le doute était impossible. La passion l'avait terrassée. Elle abjurait sa fierté, sa pudeur. Elle descendait des nuées sublimes où elle avait voulu planer au-dessus de toutes les faiblesses humaines. Elle se jugeait d'avance avilie par l'amour de son mari. Elle voulait se rendre coupable auparavant. Étrange et déplorable folie dont je rougis pour elle, au point de ne pouvoir cacher à Marguerite l'indignation que j'éprouvais. La pauvre femme ne me comprit pas. « N'est-ce pas que c'est bien mal ?» me dit-elle en entendant mes exclamations. « Oui, c'est bien mal à moi d'avoir intercepté une lettre comme celle-là. Que voulez-vous ? Je n'ai pas eu le courage qu'il fallait. Je me suis dit... « Puisque je vais mourir. » « Il l'aime, elle le lui dit. Il me trompe par vertu, par bonté, mais il l'aime, c'est bien sûr. S'il ne le lui a pas dit, elle l'a bien vu. Et moi aussi, d'ailleurs, je le voyais bien. Pauvre Paul, comme il a été malheureux à cause de moi. Comme il s'est défendu, comme il a été grand et généreux. J'ai eu tort de lui cacher son bonheur. Il n'en eût pas profité tant que j'aurais vécu. C'est pour cela qu'il faut que je me dépêche de partir. Je reste trop longtemps. Chaque jour que je vis, il me semble que je le lui vole. Ah, j'ai été lâche. J'aurais dû lui dire « Laisse-moi encore quelques semaines pour bien regarder mon pauvre enfant. Je voudrais ne pas l'oublier quand je serai morte. Va donc à ce rendez-vous. Ce ne sera pas le dernier. » Vous vous aimez tant que vous ne saurez pas si vous êtes coupable de vous aimer. Seulement ne me dis rien. Laisse-moi croire que tu n'iras peut-être pas. Pardonne-moi d'avoir été ton fardeau, ton geôlier, ton supplice. Mais sache que je t'aimais encore plus qu'elle ne t'aime, car je meurs pour que tu aies son amour, et elle n'eût pas fait cela pour toi. » Elle parla encore longtemps ainsi, avec exaltation, et une sorte d'éloquence. Je ne l'interrompais point, car Paul était entré sans bruit. Il se tenait derrière son rideau et l'écoutait avec attention. Il voulait tout savoir. De son côté, elle m'avouait tout. « Vous me justifierez quand je n'y serai plus, » disait-elle. « Faites-lui connaître que, si je ne suis pas morte plus tôt, ce n'est pas ma faute. J'ai fait mon possible pour en finir bien vite. » Tous les remèdes qu'on me présente, je les mets dans ma bouche, mais je ne les avale que quand on m'y force en me regardant bien. La nuit, quand on dort un instant, je me lève, je prends froid. Si on me dit de prendre de l'opium, j'en prends trop. Je cherche tout ce qui peut me faire mal. Je fais semblant de ne pouvoir dormir que sur la poitrine et je m'étouffe le cœur. Jusqu'à ce que je perde connaissance. Je voudrais savoir autre chose pour me faire mourir. « Assez, Marguerite !» lui dit Paul en se montrant. « J'en sais assez pour te sauver, et je te sauverai. Tu le voudras, et nous serons heureux, tu verras. Nous oublierons tout ce que nous avons souffert.
montre-moi cette lettre dont tu parles, et ne crains rien. » Il lui prit doucement la lettre, la lut sans émotion, la jeta par terre et la roula sous son pied.
« C'est une lettre infâme » s'écria-t-il. « C'est une insulte à mon honneur. Comment ? J'aurais tendu la main à son mari après le duel, j'aurais accepté ses excuses, pardonné à son repentir, conseillé le mariage, et après le mariage, le rapprochement, tout cela pour le tromper, pour posséder sa femme avant lui et m'avilir à ses yeux plus qu'il n'était avili au mien par sa conduite envers toi. Tiens, cette femme est plus folle que lui, et sa démence n'a rien de noble. C'est l'égarement d'une conscience malade, d'un esprit faux, d'un méchant cœur. Je devrais la haïr, car son but n'est pas même la passion aveugle. Elle a espéré me punir des conseils sévères que je lui ai donnés, en mettant dans ma vie ce qu'elle jugeait devoir être un regret poignant, éternel. Eh bien, sais-tu ce que j'eusse fait vis-à-vis d'une pareille femme, si ni Jacques de Rivonnière, ni ma tante, ni toi n'eussiez jamais existé? J'aurais été à son rendez-vous, et je lui aurais dit en la quittant « Merci, madame. C'est demain le tour de quelque autre. Je vous quitte sans regret. » Mais supposez que j'aurais avec elle une heure d'ivresse au prix de mon honneur et de ta vie? Ah ! Marguerite, ma pauvre chère enfant, tu ne me connais donc pas encore. Allons, tu me connaîtras. En attendant, jure-moi que tu veux guérir, que tu veux vivre. Regarde-moi. Ne vois-tu pas dans mes yeux que tu es, avec mon Pierre, ce que j'ai de plus cher au monde ? Il alla chercher l'enfant et le mit dans les bras de sa mère. « Vois donc le trésor que tu m'as donné. Dis-moi si je peux ne pas aimer la mère de cet enfant-là. Dis-moi si je pourrais vivre sans elle. Mettons tout au pire. Suppose que j'ai eu un caprice pour cette folle que tu as toujours beaucoup plus admirée que je ne l'admirais. Serait-ce un grand sacrifice à te faire que de rejeter ce caprice comme une chose malsaine et funeste ? Faudrait-il un énorme courage pour lui préférer mon bonheur domestique et l'admirable dévouement d'un cœur qui veut s'étouffer, comme tu dis, par amour pour moi ? Non, non, ne l'étouffe pas, ce cœur généreux qui m'appartient. Suppose tout ce que tu voudras, Marguerite. Admets que je sois un sot, une dupe vaniteuse, un libertin corrompu, un traître. Je ne croyais pas mériter ces suppositions. Mais au moins, ne suppose pas qu'en te voyant désirer la mort, j'accepte le honteux bonheur que tu veux me laisser goûter. Allons, allons, lui dit-il encore en voyant renaître le sourire sur ses lèvres décolorées. Relève-toi de la maladie et de la mort, ma pauvre femme, ma seule, ma vraie femme. Ris avec moi de celles qui, prétendant n'être à personne, tomberont peut-être dans l'abjection d'être à tous. Ces êtres forcés sont des fantômes. La grandeur à laquelle ils prétendent n'est que poussière. Ils s'écroulent devant le regard d'un homme sensé. Que la belle marquise devienne ce qu'elle pourra, je ne me soucierai plus de redresser son jugement. J'abdique même le rôle d'ami désintéressé qu'elle m'avait imposé. Je ne lui répondrai pas. Je ne la reverrai pas. Je t'en donne ici ma parole, aussi sérieuse, aussi loyale, que si pour la seconde fois je contractais avec toi le lien du mariage. Et ce que je te jure aussi, c'est que je suis heureux et fier de prendre cet engagement-là. 8 jours plus tard, Marguerite, docile à la médication et rassurée pour toujours, était hors de danger. On faisait des projets de voyage auxquels je m'associais, car mon cœur n'était plus avec Césarine. Il était avec Paul et Marguerite. Je ne fis aucun reproche à Césarine de sa conduite et ne lui annonçai pas ma résolution de la quitter. Il eût fallu en venir à des explications trop vives, et après l'avoir tant aimée, je ne m'en sentais pas le courage. Elle continuait à soigner admirablement bien son mari. Il était ivre de reconnaissance et d'espoir. Monsieur Dietrich était fier de sa fille. Tout le monde l'admirait. On l'a proposée pour modèle à toutes les jeunes femmes. Elle réparait les allures éventées de sa jeunesse
et l'excès de son indépendance par une soumission au devoir et par une bonté sérieuse qui en prenait d'autant plus d'éclat. Elle préparait tout pour aller passer l'automne à la campagne avec son mari. L'avant-veille du jour fixé pour le départ, elle écrivit à Paul. « Soyez à 7 heures du matin à votre bureau, j'irai vous prendre. » Paul me montra ce billet en haussant les épaules, me pria de n'en point parler à Marguerite et le brûla comme il avait brûlé le premier. Je vis bien qu'il avait un peu de frisson nerveux. Ce fut tout. Il ne sortit pas de chez lui le lendemain. Craignant que Césarine, déçue et furieuse, ne sût pas se contenir, je m'étais chargée de l'observer, voulant lui rendre ce dernier service de l'empêcher de se trahir. Elle sortit à 7 heures et fut dehors jusqu'à 9. Elle revint, sortit encore et revint à midi. Elle voulait retourner encore chez Latour après avoir déjeuné avec son père. Je l'en empêchais en lui disant comme par hasard que j'allais voir mon neveu qui m'attendait chez lui. « Est-ce qu'il est gravement malade ? » s'écria-t-elle hors d'elle-même. « Il ne l'est pas du tout, » répondis-je. « J'avais à lui parler de mon livre. Je lui ai écrit 2 fois. Pourquoi n'a-t-il pas répondu ? Je veux le savoir. J'irai chez lui avec toi. » « Non, » lui dis-je, voyant qu'il n'y avait plus rien à ménager. « Il a reçu tes 2 billets et n'a pas voulu y répondre. Ils sont brûlés. »«
Et il te les a montrés ? » ?»«
Oui. »
« Ainsi qu'à Marguerite ? » ?»«
Non. » »« Voilà tout ce que tu as à me dire ? » ?»«
C'est tout. » »«
Il a voulu nous brouiller alors. Il m'a condamné à rougir devant toi. Il croit que je supporterai ton blâme ? » ?»«
Tu ne dois pas le supporter. »
« Je vais vivre avec ma famille. »«
C'est bien, » répliqua-t-elle d'un ton sec, et elle alla s'enfermer dans sa chambre, d'où elle ne sortit que le soir.
Je fis mes derniers préparatifs et mes adieux à M. Dietrich, sans lui laisser rien pressentir encore. Je prétextai une absence de 2 mois en vue du rétablissement de ma nièce. Nous étions à l'hôtel Dietrich, où Césarine avait dit à son mari vouloir passer la journée pour préparer son départ du lendemain. Elle en laissa tout le soin à sa tante Elmina, et, après avoir été toute l'après-midi enfermée sous prétexte de fatigue, elle vint dîner avec nous. Elle avait tant pleuré que cela était visible et que son père s'en inquiéta. Elle mit le tout sur le compte du chagrin qu'elle avait de quitter la maison paternelle, et nous accabla de tendres caresses. Le lendemain, elle partait seule avec son mari, et j'allais m'établir rue de Vaugirard. Comme je quittais l'hôtel, je fus surprise de voir Bertrand qui me saluait d'un air cérémonieux.
« Comment ? » lui dis-je. « Vous n'avez pas suivi la marquise ?»«
Non, mademoiselle, » répondit-il. « J'ai pris congé d'elle ce matin. »«
Est-ce possible ? Et pourquoi donc ?»
« Parce qu'elle m'a fait porter avant-hier une lettre que je n'approuve pas. »«
Vous en saviez donc le contenu ?»«
À moins de l'ouvrir, ce que mademoiselle ne suppose certainement pas, je ne pouvais pas le connaître. »« Mais à la manière dont M. Paul l'a reçue, en me disant d'un ton sec qu'il n'y avait pas de réponse, et à l'obstination que Mme la marquise a mise hier à vouloir le trouver dans son bureau, à son chagrin, à sa colère, » j'ai vu que, pour la première fois de sa vie, elle faisait une chose qui n'était pas digne, et que sa confiance en moi commençait à me dégrader. Je lui ai demandé à me retirer. Elle a refusé, ne pouvant pas supposer qu'un homme aussi dévoué que moi pût lui résister. J'ai tenu bon, ce qui l'a beaucoup offensé. Elle m'a traité d'ingrat. J'ai été forcée de lui dire que ma discrétion lui prouverait ma reconnaissance. Elle m'a parlé plus doucement, mais j'étais blessée, et j'ai refusé toute augmentation de gage, toute gratification. J'approuvai Bertrand et montai en voiture, le cœur un peu gros de voir Césarine si humiliée. Le tendre accueil de mes enfants d'adoption effaça ma tristesse. Nous passâmes l'été à Vichy et en Auvergne, d'où nous ramenâmes Marguerite guérie, heureuse et splendide de beauté. Le petit Pierre plus robuste et plus gai que jamais.
je pus constater par mes yeux à toute heure que Paul était heureux désormais et qu'il ne pensait pas plus à Césarine qu'à un roman lu avec émotion un jour de fièvre et froidement jugé le lendemain. Quant à la belle marquise, elle reparut avec éclat dans le monde l'hiver suivant. Son luxe, ses réceptions, sa beauté, son esprit firent fureur. C'était la plus charmante des femmes, en même temps qu'une femme de mérite, cœur et intelligence de premier ordre. Nous seuls, dans notre petit coin tranquille, nous savions le côté vulnérable de cette armure de diamant. Mais nous n'en disions rien, et nous parlions fort peu d'elle entre nous. Marguerite, malgré le jugement sévère porté sur cette idole par son mari, était toujours prête à la défendre et à l'admirer. Elle ne pouvait pas oublier qu'elle devait la vie de son fils à sa belle marquise. Paul lui laissa cette religion d'une âme tendre et généreuse. Pour mon compte, cette absence de haine dans la jalousie me fit aimer Marguerite et reconnaître qu'elle ne s'était pas vantée en disant que, si elle était la plus simple et la plus ignorante de nous tous, elle était la plus aimante et la plus dévouée. Je me suis plu à raconter cette histoire de famille à mes moments perdus. Quel sera l'avenir de Césarine? Son père et son mari, que je vois quelquefois, après de vains efforts pour me ramener chez eux, paraissent les plus heureux du monde. Elle seule me tient rigueur et n'a pas fait la moindre démarche personnelle pour se rapprocher de moi. Peut-être se ravisera-t-elle. Je ne le désire pas. Les 7 années que j'ai passées auprès d'elle ont été, sinon les plus pénibles, du moins les plus agitées de ma vie. Depuis 2 ans, Paul ne l'a revue qu'une seule fois, le mois dernier, et voici comment il me raconta cette entrevue fortuite. Hier, comme j'étais à Fontainebleau pour une affaire, j'ai voulu profiter de l'occasion pour faire à pied un bout de promenade jusqu'aux roches d'Avon. En revenant par le chemin boisé qui longe la route de Morée, tout absorbé dans une douce rêverie, je n'entendis pas le galop de 2 chevaux qui couraient derrière moi sur le sable. L'un d'eux fondit sur moi littéralement et m'eût renversé, si par un mouvement rapide je ne me fusse accroché et comme suspendu à son mors. La généreuse bête, qui était magnifique, par parenthèse, j'ai eu assez de sang-froid pour le remarquer, n'avait nulle envie de me piétiner. Elle s'arrêtait d'elle-même, quand un vigoureux coup de cravache de l'Amazone intrépide, qui la montait, la fit se dresser et me porter ses genoux contre la poitrine. Je ne fus pas atteint, grâce à un saut de côté que je sus faire à temps, sans lâcher la bride. « Laissez-moi donc passer, monsieur Gilbert !» me dit une voix bien connue, avec un accent de légèreté. « Passez, madame la marquise !» répondis-je froidement, sans perdre mon temps à lui adresser un salut qu'elle ne m'eût pas rendu. Elle passa, comme un éclair, suivie de son groom, laissant un peu en arrière le cavalier qui l'accompagnait, et qui n'était autre que le vicomte de Valbonne. Il s'arrêta, et me tendant la main, « Comment, diable, c'est vous ? » s'écria-t-il. « J'accourais pour vous empêcher d'être renversé, car je voyais un promeneur distrait qui ne se rangeait pas devant l'écuyère la plus distraite qui existe. Savez-vous qu'un peu plus elle vous passait sur le corps ?»« Je ne me laisse pas passer sur le corps, » répondis-je. « Ce n'est pas mon goût. »« Hélas, » reprit-il, « ce n'est pas le mien non plus. À revoir, cher ami. » Je ne puis laisser la marquise rentrer seule dans la ville. » Et il partit ventre à terre pour la rejoindre. J'en savais assez. « Quoi, mon enfant? Que sais-tu? » Je sais que le pauvre vicomte, tout rude qu'il est de manière et de langage, est devenu, en qualité de cible, mon remplaçant aux yeux de l'impérieuse Césarine, qu'il a été moins heureux que moi et qu'elle lui a passé sur le corps. J'ai vu cela d'un trait à son regard, à son accent, à ces 3 mots d'une amertume profonde. On lui fait expier son hostilité par un servage qui pourra bien durer autant que celui du marquis, c'est-à-dire toute la vie. Rivonnière est heureux, lui, Il se croit adoré et il passe pour l'être.
Valbonne est à plaindre. Il trahit son ami. Il est humilié. Il finira peut-être mal, car c'est un homme sombre et mystique. Sais-tu, ma tante, ajouta Paul, que cette femme-là a failli me faire bien du mal, moi aussi. Je peux te le dire à présent. J'étais plus épris d'elle que je ne te l'ai jamais avoué. Je ne me suis pas trahi devant elle, mais elle le voyait malgré moi. C'est ce qui t'explique l'audace de ses aveux et les rend, je ne dis pas moins coupable, mais moins impudent. Où en serais-je si je n'avais pas eu un peu de force morale? Ne m'a-t-elle pas mis au bord d'un abîme? Si j'ai failli perdre ma pauvre femme, n'est-ce pas parce que, ébloui et troublé, je manquais de clairvoyance et m'endormais sur la gravité de sa blessure? On n'est jamais assez fort, crois-moi, et ne me reproche plus d'être un homme dur à moi-même. Si Marguerite n'eût été sublime dans sa folie, j'étais perdue. Je la laissais mourir sans voir ce qui la tuait. Elle avait sujet d'être jalouse. J'avais beau être impénétrable et invincible, son cœur, puissant par l'instinct, sentait le vertige du mien. Tout cela est passé, mais non oublié. La belle marquise eût été fort aise hier de me voir rouler honteusement dans la poussière sous le sabot de son destrier. Et moi, je me souviens pour me dire à toute heure « Ne laisse jamais entamer ta conscience de l'épaisseur d'un cheveu. » Aujourd'hui, 5 août 1866, Paul est l'heureux père d'une petite fille aussi belle que son frère. Monsieur Dietrich a voulu être son parrain. Césarine n'a pas donné signe de vie et nous lui en savons gré. Je dois terminer un récit que je n'ai pas fait en vue de moi-même par quelques mots sur moi-même. Je n'ai pas si longtemps vécu de préoccupations pour les autres sans en retirer quelque enseignement. J'ai eu aussi mes torts et je m'en confesse. Le principal a été de douter trop longtemps du progrès dont Marguerite était susceptible. Peut-être ai-je eu des préventions qui, à mon insu, prenaient leur source dans un reste de préjugés de naissance ou d'éducation. Grâce à l'admirable caractère de Paul, Marguerite est devenue un être si charmant et si sociable que je n'ai plus à faire d'efforts pour l'appeler ma nièce et la traiter comme ma fille. Le soin de leurs enfants est ma plus chère occupation. J'ai remplacé Madame Ferron, que nous avons mise à même de vivre dans une aisance relative. Quant à nous, nous nous trouvons très à l'aise pour le peu de besoins que nous avons. Nous mettons en commun nos modestes ressources. Je fais chez moi un petit cours de littérature à quelques jeunes personnes. Les affaires de Paul vont très bien. Peut-être sera-t-il un jour plus riche qu'il ne le comptait le devenir. C'est la résultante obligée de son esprit d'ordre, de son intelligence et de son activité. Mais nous ne désirons pas la richesse. Et loin de le pousser à l'acquérir, nous lui imposons des heures de loisir que nous nous efforçons de lui rendre douces. Nohant, 15 juillet 1870.